Littérature Audio a le plaisir de vous présenter une comédie de Molière, Le Misanthrope, ou L'Atrabiliaire amoureux, jouée pour la première fois le 4 juin 1666 au Théâtre du Palais-Royal. Les personnages:
Philinte, ami d'Alceste, Thierry Caudvel.
Alceste, amant de Célimène, Gustave.
Oronte, amant de Célimène, Aymeric.
Célimène, amante d'Alceste, Hespéridée.
Clitandre, marquis, Florent.
Acaste, marquis, Vincent de l'Épine.
Éliante, amie de Célimène, Domia.
Un garde de la maréchaussée de France, Vincent de l'Épine.
Arsinoé, ami de Célimène, Cocotte.
Dubois, valet d'Alceste, Florent.
Basque, valet de Célimène, Aymeric.
Didascalie, Magali.
La scène se passe à Paris, dans la maison de Célimène. Acte 1, scène première. Philinte, Alceste.
Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous?
Alceste assis.
Laissez-moi, je vous prie.
Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie!
Laissez-moi là, vous dis-je, courez vous cacher!
Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.
Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre.
Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et, quoique ami, enfin, je suis tout des premiers.
Alceste, se levant brusquement.
Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus.
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte?
Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments, vous charger la fureur de vos embrassements, et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme, votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent, morbleu. C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais, de regret, pendre tout à l'instant.
Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable, et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt, et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît.
Que la plaisanterie est de mauvaise grâce!
Mais, sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse?
Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment.
Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles. Que de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée, et la plus glorieuse a des régals peu chers dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait.
Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil que l'usage demande.
Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments.
Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est?
Oui.
Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il s'y est mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun?
Mais sans doute.
À Dorilas qu'il est trop importun et qu'il n'est à la cour oreille qui ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race?
Fort bien.
Vous vous moquez?
Je ne me moque point, et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière tout le genre humain.
Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage, et crois voir en nous deux sous même soin nourris ces deux frères que peint l'école des maris dont...
Mon Dieu, laissons là vos comparaisons fades.
Non, tout de bon, quittez toutes ces incartades. Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie partout où vous allez donne la comédie, et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens.
Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à un tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux.
Vous voulez un grand mal à la nature humaine?
Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine.
Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion? Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes?
Non, elle est générale, et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants, et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance on voit l'injuste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois, s'est poussé dans le monde. Et que par eux son sort de splendeur revêtu fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux, qu'en tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommer le fourbe infâme et scélérat maudit, tout le monde en convient et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue, on l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est, par la brigue, un rang à disputer, sur le plus honnête homme on le voit l'emporter. Tête bleue, ce me sont de mortelles blessures, de voir qu'avec le vice on garde des mesures. Et parfois il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains.
Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine, et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans sa grande rigueur, et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable, à force de sagesse on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité, et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection, il faut fléchir au temps sans obstination. Et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. J'observe comme vous, 100 choses tous les jours, qui pourraient mieux aller prenant un autre cours. Mais quoiqu'à chaque pas je puisse voir paraître, en courroux comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font, et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile.
Mais ce flegme, monsieur, qui raisonnait si bien, ce flegme pourra-t-il ne s'échauffer de rien? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que pour avoir vos biens, on dresse un artifice, ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de vous, verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux?
Oui. Je vois ces défauts dont votre âme murmure comme vices unis à l'humaine nature. Et mon esprit, enfin, n'est pas plus offensé de voir un homme fourbe, injuste, intéressé, que de voir des vautours affamés de carnage, des singes malfaisants et des loups pleins de rage.
Je me verrai trahir, mettre en pièces, voler, sans que je sois... Morbleu, je ne veux point parler, tant ce raisonnement est plein d'impertinence.
Ma foi, vous ferez bien de garder le silence. Contre votre parti, éclatez un peu moins, et donnez au procès une part de vos soins.
Je n'en donnerai point, c'est une chose dite.
Mais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite?
Qui je veux, la raison, mon bon droit, l'équité.
Aucun juge par vous ne sera visité?
Non, est-ce que ma cause est injuste ou douteuse?
J'en demeure d'accord, mais la brigue est fâcheuse et...
Non, j'ai résolu de n'en pas faire un pas. J'ai tort ou j'ai raison.
Ne vous y fiez pas.
Je ne remuerai point.
Votre partie est forte et peut par sa cabale entraîner...
N'importe.
Vous vous tromperez.
Soit, j'en veux voir le succès.
Mais...
J'aurai le plaisir de perdre mon procès.
Mais enfin...
Je verrai dans cette plaiderie si les hommes auront assez d'effronterie, seront assez méchants, scélérats et pervers pour me faire injustice aux yeux de l'univers.
Quel homme ?
Je voudrais, m'en coûta-t-il grand-chose, pour la beauté du fait avoir perdu ma cause.
On se rirait de vous, Alceste, tout de bon, si l'on vous entendait parler de la façon.
Tant pis pour qui rirait.
Mais cette rectitude que vous voulez en tout avec exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici dans ce que vous aimez? Je m'étonne, pour moi, qu'étant comme il le semble, vous et le genre humain si fort brouillés ensemble, malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux, vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. La sincère Eliante a du penchant pour vous. La prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse, tandis qu'en ses liens Célimène la muse, de qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donner dans les mœurs d'à présent. D'où vient que, leur portant une haine mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle? Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas ou les excusez-vous?
Non, l'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve, et je suis, quel quart d'heure qu'elle ait pu me donner, le premier à les voir comme à les condamner. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible, elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts et j'ai beau l'en blâmer, en dépit qu'on en ait, elle se fait aimer. Sa grâce est la plus forte. Et sans doute ma flamme, de ces vices du temps, pourra purger son âme.
Si vous faites cela, vous ne ferez pas peu. Vous croyez être donc aimé d'elle?
Oui, parbleu, je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être.
Mais si son amitié pour vous se fait paraître, d'où vient que vos rivaux vous causent de l'ennui?
C'est qu'un cœur bien atteint veut qu'on soit tout à lui, et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire tout ce que là-dessus ma passion m'inspire.
Pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, sa cousine Eliante aurait tous mes soupirs. Son cœur qui vous estime est solide et sincère, et ce choix plus conforme était mieux votre affaire.
Il est vrai, ma raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour.
Je crains fort pour vos feux, et l'espoir où vous êtes pourrait...
Scène 2. Oronte, Alceste, Philinte. Oronte à Alceste.
J'ai su là-bas que pour quelques emplettes, Eliante est sortie, et Célimène aussi. Mais comme l'on m'a dit que vous étiez ici, j'ai monté pour vous dire, et d'un cœur véritable, que j'ai conçu pour vous une estime incroyable, et que, depuis longtemps, cette estime m'a mis dans un ardent désir d'être de vos amis. Oui, mon cœur, au mérite, aime à rendre justice, et je brûle qu'un nœud d'amitié nous unisse. Je crois qu'un ami chaud et de ma qualité n'est pas assurément pour être rejeté.
Pendant le discours d'Oronte, Alceste est rêveur et semble ne pas entendre que c'est à lui qu'on parle. Il ne sort de sa rêverie que quand Oronte lui dit.
C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse.
À moi, monsieur?
À vous. Trouvez-vous qu'il vous blesse?
Non pas, mais la surprise est fort grande pour moi et je n'attendais pas l'honneur que je reçois.
L'estime où je vous tiens ne doit pas vous surprendre, et de tout l'univers, vous pouvez la prétendre.
Monsieur...
L'état n'a rien qui ne soit au-dessous du mérite éclatant que l'on découvre en vous.
Monsieur...
Oui, de ma part, je vous tiens préférable à tout ce que j'y vois de plus considérable.
Monsieur...
Sois-je du ciel écrasé si je mens. Et pour vous confirmer ici mes sentiments, souffrez qu'à cœur ouvert, monsieur, je vous embrasse. Et qu'en votre amitié, je vous demande place. Touchez-la, s'il vous plaît. Vous me la promettez, votre amitié?
Monsieur!
Quoi, vous y résistez?
Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me voulez faire. Mais l'amitié demande un peu plus de mystère. Et c'est assurément en profaner le nom que de vouloir le mettre à toute occasion. Avec lumière et choix, cette union veut naître. Avant que nous lier, il faut nous mieux connaître, et nous pourrions voir alors telle complexion que tous deux, du marché, nous nous repentirions.
Parbleu, c'est là-dessus parler en homme sage, et je vous en estime encore davantage. Souffrons donc que le temps forme des nœuds si doux, mais cependant je m'offre entièrement à vous. S'il faut faire à la cour pour vous quelque ouverture, on sait qu'auprès du roi je fais quelque figure. Il m'écoute, et dans tout il en use, ma foi, le plus honnêtement du monde avec moi. Enfin, je suis à vous de toutes les manières, et comme votre esprit a de grandes lumières, je viens, pour commencer entre nous ce beau nœud, vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu, et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose.
Monsieur, je suis malpropre à décider la chose. Veuillez m'en dispenser.
Pourquoi ?
J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut.
C'est ce que je demande, et j'aurai lieu de plainte. Si, m'exposant à vous pour me parler sans feinte, vous alliez me trahir et me déguiser rien.
Puisqu'il vous plaît ainsi, monsieur, je le veux bien.
Sonnet. C'est un sonnet. L'espoir, c'est une dame qui de quelque espérance avait flatté ma flamme. L'espoir, ce ne sont point de ces grands vers pompeux, mais de petits vers doux, tendres et langoureux.
À toutes ces interruptions, il regarde Alceste.
Nous verrons bien.
L'espoir, je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile, et si du choix des mots vous vous contenterez.
Nous allons voir, monsieur.
Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire.
Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire.
L'espoir, il est vrai, nous soulage, et nous berce un temps notre ennui. Mais, Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui.
Je suis déjà charmé de ce petit morceau.
Alceste va à Philinte.
Quoi, vous avez le front de trouver cela beau?
Vous eûtes de la complaisance, mais vous en deviez moins avoir, et ne vous pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir.
Ah, qu'en termes galants ces choses-là sont mises.
Alceste bat à Philinte.
Et quoi, vil complaisant, vous louez des sottises?
S'il faut qu'une attente éternelle pousse à bout l'ardeur de mon zèle, le trépas sera mon recours. Vos soins ne m'en peuvent distraire, belle Phyllis, on désespère, alors qu'on espère toujours.
La chute en est jolie, amoureuse, admirable.
Alceste bat à part.
La peste de ta chute, empoisonneur, au diable, en eusses-tu fait une à te casser le nez?
Je n'ai jamais ouï de vers si bien tourné.
Alceste bat à part.
Morbleu.
Vous me flattez, et vous croyez peut-être...
Non, je ne flatte point.
Alceste bat à part.
Que fais-tu donc, traître ?
Mais pour vous, vous qui savez quel est notre traité, parlez-moi, je vous prie, avec sincérité.
Monsieur, cette matière est toujours délicate, et sur le bel esprit, nous aimons qu'on nous flatte. Mais un jour, à quelqu'un dont je tairai le nom, je disais, en voyant des vers de sa façon, qu'il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous prennent d'écrire, qu'il doit tenir la bride aux grands empressements qu'on a de faire éclat de tels amusements, et que, par la chaleur de montrer ses ouvrages, on s'expose à jouer de mauvais personnages.
Est-ce que vous voulez me déclarer par là que j'ai tort de vouloir...
Je ne dis pas cela, mais je lui disais, moi, qu'un froid écrit assomme, et qu'il ne faut que ce faible à décrire un homme... Et qu'eût-on d'autre part sans belle qualité, on regarde les gens par leur méchant côté.
Est-ce qu'à mon sonnet vous trouvez à redire ?
Je ne dis pas cela, mais pour ne point écrire, je lui mettais aux yeux, comme dans notre temps, cette soif à gâter de fort honnêtes gens.
Est-ce que j'écris mal ? Leur ressemblerais-je ?
Je ne dis pas cela, mais enfin lui disais-je, quel besoin si pressant avez-vous de rimer, et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer? Si l'on peut pardonner l'essor d'un mauvais livre, ce n'est qu'aux malheureux qui composent pour vivre. Croyez-moi, résistez à vos tentations, dérobez au public ses occupations, et n'allez point quitter, de quoi que l'on vous somme, le nom que dans la cour vous avez d'honnête homme, pour prendre de la main d'un avide imprimeur celui de ridicule et misérable auteur. C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre.
Voilà qui va fort bien, et je crois vous entendre. Mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet...
Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Vous êtes réglé sur deux méchants modèles, et vos expressions ne sont point naturelles. Qu'est-ce que « nous berce un temps notre ennui » et que « rien ne marche après lui » que « ne vous pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir » et que Phyllis on désespère alors qu'on espère toujours, ce style figuré dont on fait vanité sort du bon caractère et de la vérité. Ce n'est que jeu de mots, qu'affectation pure, et ce n'est point ainsi que parle la nature. Le méchant goût du siècle en cela me fait peur. Nos pères, tout grossiers, l'avaient beaucoup meilleur, et je prise bien moins tout ce que l'on admire qu'une vieille chanson que je m'en vais vous dire. Si le roi m'avait donné Paris sa grande ville, et qu'il me fallut quitter l'amour de ma mie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux ma mie au guet, j'aime mieux ma mie. Ah, la rime n'est pas riche, et le style en est vieux, mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux que ces colifichets dont le bon sens murmure et que la passion parle là toute pure? Si le roi m'avait donné Paris sa grande ville, et qu'il me fallut quitter l'amour de ma mie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux ma mie au guet, j'aime mieux ma mie. Voilà ce que peut dire un cœur vraiment épris.
À Philinte qui rit.
Oui, monsieur le rieur, malgré vos beaux esprits, j'estime plus cela que la pompe fleurie de tous ces faux brillants où chacun se récrit.
Et moi, je vous soutiens que mes vers sont fort bons.
Pour le trouver ainsi, vous avez vos raisons, mais vous trouverez bon que j'en puisse avoir d'autres qui se dispenseront de se soumettre aux vôtres.
Il me suffit de voir que d'autres en font cas.
Ce qu'ils ont l'art de feindre, et moi, je ne l'ai pas.
Croyez-vous donc avoir tant d'esprit en partage ?
Si je louais vos vers, j'en aurais davantage.
Je me passerais fort que vous les approuviez.
Il faut bien, s'il vous plaît, que vous vous en passiez.
Je voudrais bien, pour voir, que de votre manière, vous en composassiez sur la même matière.
J'en pourrais par malheur faire d'aussi méchants, mais je me garderai de les montrer aux gens.
Vous me parlez bien ferme, et cette suffisance.
Autre part que chez moi, cherchez qu'on vous encense.
Mais, mon petit monsieur, prenez-le un peu moins haut.
Ma foi, mon grand monsieur, je le prends comme il faut.
Philinte se mettant entre deux.
Eh, messieurs, c'en est trop. Laissez cela de grâce.
Ah, j'ai tort, je l'avoue, et je quitte la place. Je suis votre valet, monsieur, de tout mon cœur.
Et moi, je suis, monsieur, votre humble serviteur.
Scène 3. Philinte, Alceste.
Eh bien, vous le voyez. Pour être trop sincère, vous voilà sur les bras une fâcheuse affaire. Et j'ai bien vu Coronte, afin d'être flatté.
Ne me parlez pas.
Mais...
Plus de société.
C'est trop.
Laissez-moi là.
Si je...
Point de langage.
Mais quoi?
Je n'entends rien.
Mais...
Encore.
On outrage.
Ah, parbleu, c'en est trop. Ne suivez point mes pas.
Vous vous moquez de moi, je ne vous quitte pas.